Coucou, c'est Victor. Écoute, aujourd'hui, le podcast en est à un tournant. On arrive dans les derniers épisodes de la deuxième saison, ce qui fera près de 50 épisodes, des heures et des heures d'écoute autour du spécisme, et une quantité encore plus grande de travail accumulé pour produire tous ces épisodes. Mais voilà, pour pouvoir continuer à faire ça, j'ai besoin de toi. Vraiment, ce sont pas les idées qui manquent, j'ai des dizaines d'invités et de sujets en tête que j'aimerais énormément pouvoir traiter, et j'ai aussi envie de développer le podcast. Pour qu'il devienne un média indépendant avec plusieurs formats et peut-être même des événements en live. Tout ce qui manque, ce sont les moyens pour pouvoir le faire. J'ai travaillé jusque-là de façon bénévole, en y consacrant tout mon temps libre à côté de mon job à mi-temps et en étant relativement précaire. Si tu penses que comme un poisson dans l'eau a de la valeur, que mon travail est pertinent et utile à sa modeste échelle, si t'en es convaincu et que t'as les moyens, bien sûr, s'il te plaît, abonne-toi ou fais un don, même très modeste, pour que le podcast devienne un média indépendant à part entière. Rien que le travail de lecture, recherche et préparation de chaque épisode représente des journées de travail, sans parler de l'enregistrement, du montage minutieux et professionnel, de la rédaction des descriptions, de l'animation des réseaux sociaux, de la veille médiatique et éditoriale, et de la participation à des événements pour faire connaître le podcast. Aujourd'hui, votre soutien est indispensable pour qu'une troisième saison puisse voir le jour à la rentrée, et que le podcast ne prenne pas fin tragiquement par simple manque de moyens. Pour info, Utip a fermé ses portes, pour les personnes qui me soutenaient sur cette plateforme, mais de nombreuses autres plateformes et moyens de soutien sont à retrouver dans le Linktree, en description de l'épisode, à la section « Soutenir ». Merci du fond du cœur à toutes les personnes qui soutiennent ce média. Vous êtes déjà plus de 100 à l'avoir fait, et merci à celles qui continueront à le faire, j'espère, pour que la troisième saison puisse voir le jour. Et bien d'autres encore après elle, grâce à vous. Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch, et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Ça y est, après vous avoir bien fait mariner en parlant d'abord longuement d'écofascisme, après en avoir profité pour glisser sur l'idée de nature, dans la continuité de cette discussion, voilà enfin le débat que vous attendiez tous. Hugo Clément, devait-il accepter l'invitation de Valeurs Actuelles au nom de la défense de l'écologie et de l'animalisme ? Le but, je vous l'avais dit en introduction de la première partie, c'était d'arriver dans ce débat en étant un peu plus armé, pour avoir des clés de compréhension et pouvoir se faire un avis plus éclairé, j'espère. Et ça me semblait indispensable pour cela de bien comprendre ce qu'est l'écofascisme et le risque qu'il représente. Je pense que vous avez bien vu qu'une grande partie des enjeux qui se posent vis-à-vis de l'écologie dans cette discussion sont aussi applicables à l'animalisme. Et c'est en cela que je pense que la discussion qu'on a avec Antoine Dubiot dans cet épisode peut venir éclairer un certain nombre de débats qui existent de façon un peu différente mais toutefois comparable au sein de la cause animale. Notamment, est-ce que c'est d'emblée et forcément une bonne chose si tous les partis politiques parlent davantage des animaux? Est-ce que même il faudrait formuler la question animale de façon transpartisane, voire apolitique, pour pouvoir atteindre et sensibiliser le plus grand nombre? Ou bien est-ce qu'on risque en faisant cela des réappropriations réactionnaires ou fascisantes? Est-ce qu'on risque de manquer de clarté sur certains sujets de société majeurs? Ou de s'empêcher de proposer un projet de société antispéciste cohérent, articulé à ces autres enjeux sociaux? Ce sont autant de questions, je pense, à avoir en tête, à l'écoute de ce que dit mon invité par rapport à l'écologie dans cet épisode. Alors, bon, on en vient à la question fatidique et aussi un peu plus concrète et ancrée pour le coup dans l'actualité, parce que c'est aussi un des buts de cet entretien. Là, je pense que maintenant, on voit bien, en étant entré dans le détail, la possibilité que représente l'écofascisme. Et ben, qu'est-ce qu'on fait ? Quand, par exemple, on est dans une figure publique écologiste et qu'on est invité à aller en parler, et bien, par exemple, à Valeurs Actuelles, comme l'a été le journaliste Hugo Clément. Alors, il a vraiment assumé et défendu son choix d'y être allé, malgré les critiques qui ont été assez vives, en arguant notamment que l'écologie, c'est quelque chose qui concerne tout le monde et que ça sert pas à grand-chose d'aller parler aux gens qui sont déjà convaincus, qui sont déjà écologistes ou sensibles à cette question-là. Il faut plutôt cibler son discours à aller convaincre les autres, et donc aussi les gens d'extrême droite.
Oui, l'écologie qui concerne tout le monde, c'est un peu l'argument fétiche des écologistes apolitiques, je vais les désigner ainsi. Et c'est vrai que l'écologie concerne tout le monde au sens où la crise écologique, c'est un phénomène global qui affecte les conditions d'habitabilité de la planète pour les humains et pour les non-humains. D'ailleurs, quand on dit tout le monde, en fait, souvent le présupposé est anthropocentré, mais en fait, on pourrait aussi imaginer que l'écologie concerne tout le monde, c'est aussi les êtres sentients autres qu'humains. Mmh. Et même au-delà des êtres sentients autres qu'humains, on pourrait élargir même ce postulat-là. Donc l'idée que l'écologie concerne tout le monde, c'est vrai d'un point de vue global, et c'est pas du tout de réfuter cette universalité, on va dire, de la crise écologique. Maintenant, elle concerne pas tout le monde de la même manière. Et en fait, c'est ça qui est important. Et c'est ça qui rend l'écologie politique et qui en fait vraiment un enjeu politique en tant que tel, c'est que à la fois les responsabilités dans la crise écologique sont différenciées entre humains, entre pays notamment,
oui.
Entre pays du Nord qui ont un impact écologique individuel mais aussi collectif beaucoup plus important que les pays du Sud notamment, mais aussi selon des fractures de classe, de genre.
Au sein de chacun des pays, les classes dominantes, les classes les plus aisées
exactement.
Ont un impact environnemental aussi beaucoup plus élevé.
Ça c'est en termes de responsabilité, mais après c'est aussi vrai en termes d'impact. Impact de la crise écologique sur les différentes parties de l'humanité ou parties des êtres sentients sur la planète.
Et là, c'est presque inversé. L'impact voilà. est décuplé sur les populations des pays dits du Sud.
Ouais. C'est-à-dire que finalement, les plus gros responsables sont ceux qui subissent le moins ouais. et les moins gros responsables, ceux qui subissent le plus les effets alors, du changement climatique, mais aussi des autres types de crises environnementales, la biosphère, les pollutions autres que climatiques, etc. Donc, à mon sens, cette idée que l'écologie concerne tout le monde, elle n'est intéressante que si elle est articulée justement à ces différenciations et à leur dimension sociale, en fait. Et le fait qu'il y a des rapports de pouvoir importants qui structurent en fait ces différences, à la fois en termes de responsabilité et en termes d'impact.
Ça, c'est tronqué, en fait, si on s'arrête là. Ça concerne tout le monde, mais avec des effets très différents et des responsabilités qui sont absolument pas du tout les mêmes, et même aux antipodes, parfois.
Exactement. Ce qui rapproche l'écologie en fait de n'importe quelle question politique, c'est-à-dire que c'est l'exemple que je prends toujours, c'est la santé, ça concerne tout le monde. Tout le monde veut se soigner et finalement c'est pas très intéressant de dire que la santé concerne tout le monde. Et personne d'ailleurs ne dit la santé concerne tout le monde. L'argument c'est plutôt de dire quel mode de financement on veut, quelle instrumentation technologique on veut, quel accès pour qui, etc. Quel système social on veut derrière le système de santé. Donc là on a pris l'exemple de la santé, mais on peut parler d'absolument toutes les questions politiques. En fait, tout ce qui est politique concerne tout le monde par définition. Maintenant, la question c'est quels sont les rapports de pouvoir associés à cette thématique-là, qui a les prises pour mener telle ou telle politique, et puis quels effets sociaux va avoir telle ou telle manière de traiter cette question-là.
D'accord, donc c'est ça que vous décrivez comme une vision apolitique de l'écologie qui s'en tient à dire ça concerne tout le monde, sans aller dans ce détail d'analyse, de se rendre compte en quoi, comment, de façon très différenciée. Si je vous comprends bien, en fait, selon vous, il n'y a pas l'écologie au singulier qui pourrait en fait se combiner avec n'importe quelle tendance ou projet politique, parce que la formulation même de ce qu'est l'écologie politique dépend finalement de la façon dont on pense tout un ensemble d'autres sujets politiques, justement.
Tout à fait. À mon sens, l'écologie, c'est devenu même plutôt une dimension de l'analyse de la réalité contemporaine, au sens où la crise écologique est devenue tellement importante qu'elle ne peut plus être ignorée, en fait, comme le sont un certain nombre d'autres questions. Quand il y a une crise économique, on ne va pas se poser la question de est-ce que tel parti est intéressé par la crise économique et tel autre non. En fait, c'est une dimension de la réalité politique contemporaine qui est prise en compte, et chaque parti, en fait, a ses propres réponses à cette situation. Je pense que pour l'écologie, il faut qu'on arrive à construire le même type de vision du problème, et que finalement, en fait, il va y avoir différentes réponses à ce problème. Et alors certaines qui vont proposer des solutions plus efficientes que d'autres, bien sûr, mais qu'on soit capable de voir qu'il y a cette pluralisation des réponses politiques à la crise écologique qui existe.
D'accord. Et en revanche, ce qui a été aussi intéressant dans les réactions à la participation d'Hugo Clément à l'événement de Valeurs Actuelles, c'est que beaucoup des réactions de figures de l'écologie ou de journalistes ont alors rappelé, et je pense que vous y souscrivez, du coup, comme vous venez de le dire, que l'écologie est profondément politique, liée à tout un ensemble d'autres questions, mais ont aussi défendu que l'écologie serait incompatible avec l'extrême droite. Une façon de dire que l'écologie, c'est forcément de gauche et qu'il n'y a pas de sens à aller parler d'écologie à l'extrême droite. Et là, par contraste, vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette vision-là, du coup.
Oui, et en fait, il y a même une contradiction, à mon avis, entre les deux propositions, de dire que l'écologie est politique, mais que finalement, elle appartiendrait à une seule famille politique. Pour moi, c'est un peu contradictoire. La formule que je mobilise souvent, c'est de dire que l'écologie est historiquement ancrée à gauche. Ça, c'est une réalité, que la principale famille politique s'est saisie des questions écologiques d'un point de vue idéologique, mais pas uniquement d'un point de vue du mouvement aussi politique derrière. C'est la gauche, enfin, une certaine frange de la gauche. Ça, c'est ce que je dis, ce que je désigne, pardon, comme l'écologie historiquement ancrée à gauche. Maintenant, cette histoire-là, elle ne veut pas dire que l'écologie est intrinsèquement ancrée à gauche et qu'il ne peut pas y avoir d'autres appropriations de la question écologique. Et donc, à mon avis, cette distinction entre naturellement ou intrinsèquement et historiquement, c'est quelque chose de vraiment important pour comprendre aussi l'émergence de l'écofascisme.
Oui, c'est pour ça que je tenais à revenir avec vous sur tous les éléments d'analyse de votre ouvrage qui montrent bien comment l'extrême droite peut bel et bien s'approprier les questions écologiques dans une articulation avec l'ensemble de l'idéologie d'extrême droite. Je voudrais qu'on s'arrête sur un autre élément un peu précis, c'est une certaine façon de voir l'écologie comme une question qui, bah justement, devrait pas être considérée comme juste de gauche ou fondamentalement de gauche. Et c'est la question de ce serait une question transpartisane qui concerne plusieurs partis dans plusieurs endroits de l'espace politique. Je me fais l'avocat du diable. Est-ce qu'il n'y a pas de la valeur, finalement, à ce que certaines personnes suivent cette voie-là, de façon de parler de l'écologie, d'un point de vue stratégique, pour toucher plus de personnes et imposer ces sujets à l'agenda médiatique, sans qu'ils soient d'emblée disqualifiés, parce que marqués trop à gauche, typiquement, dès qu'on a quelque chose qui semble marqué trop à gauche dans l'espace médiatique français actuel, tout de suite, c'est taxé de wokisme, c'est disqualifié, délégitimé, et on peut même plus faire passer le message, en fait.
À mon sens, c'est compliqué comme question, évidemment, c'est très compliqué. Dans les médias, le fait qu'effectivement, on parle pas assez d'écologie d'un certain point de vue, par exemple, qu'on traite les questions de canicule comme des événements météorologiques complètement déconnectés de la question du changement climatique, alors même que les climatologues montrent que y a une influence réelle du changement climatique sur les canicules et la fréquence des canicules, si on prend l'espace européen occidental, notamment. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait une écologie complètement apolitique qui existe. En fait, à mon sens, c'est même un peu... C'est quelque chose qui a pu être peut-être important à une certaine époque, de considérer l'écologie comme un enjeu, justement, transpartisan.
En lui-même, pour faire exister cette question comme indépendante et autonome par rapport à toutes les autres questions qui étaient déjà traitées, mais au moment, à l'époque, où l'écologie n'était pas du tout traitée dans les médias, c'est ça?
C'est ça. Mais maintenant, je pense qu'on est plutôt à une époque où, en fait, tout le monde est conscient qu'il y a une crise écologique. Alors certes, il y a des niveaux de conscience différents au sein de la population, mais globalement, tout le monde en a conscience. Et en fait, les résistances à se saisir de la question écologique, c'est pas des résistances de conscience ou non de la crise écologique. C'est plutôt des résistances d'intérêt, en fait, de considérer qu'en fait, répondre sérieusement à la crise écologique remettrait en cause un certain nombre de pratiques qu'on n'a pas envie de remettre en cause, et ce serait plutôt ça. Se centrer toujours sur la question de la conscience écologique, ça me semble pas être une bonne chose. On va prendre l'exemple du gouvernement, je pense pas que Emmanuel Macron ou que ses ministres n'aient pas conscience de la crise écologique. Je pense qu'ils ont surtout pas intérêt à agir, intérêt personnel ou intérêt de classe, tout simplement aussi, à agir contre la crise écologique.
Oui, vous n'êtes pas convaincu par des visions qu'on pourrait dire naïves, qu'il suffit d'aller faire des formations au gouvernement ou dans les ministères pour que les personnes qui y sont soient mieux informées et puissent mieux agir pour changer les choses.
Moi, ça, j'y crois pas du tout. Et en plus, objectivement, je pense que c'est même un public très informé et qui a même très bien conscience des intérêts que la crise écologique met en danger. Donc, c'est même plutôt la vision inverse, quoi. Donc tous les discours de type « il faut écouter les scientifiques », ils ont eu une pertinence, évidemment, et je pense que même que le mouvement écologiste s'est fondé sur le fait qu'il y a eu des alertes scientifiques qui ont été prises au sérieux d'un point de vue politique par les écologistes de manière précoce, et notamment dans les années 70, il y a eu un certain nombre d'alertes scientifiques importantes, et l'idée c'est pas du tout de nier ça, simplement aujourd'hui on n'en est plus à ce stade-là à mon avis, et l'idée de « il faut conscientiser les gens sur l'écologie », à mon avis, a quand même des limites importantes. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde a conscience de l'intégralité des problèmes écologiques et de leur imbrication et de leur logique politique derrière.
Oui, il faut quand même continuer ce travail d'information.
Mais par contre, c'est pas simplement pour le travail de conscientisation à faire, il n'est pas sur « il y a une crise écologique ». Il est sur les ressorts politiques derrière de cette crise écologique.
D'accord, oui. J'ai l'impression que ce qui peut se jouer aussi dans les critiques qui ont été adressées à Hugo Clément, c'est une forme de conception différente de ce qu'est le débat public et de ce que ça doit être. À quoi ça sert en fait? Certaines disent que quand on n'est pas d'accord avec une idéologie, avec des idées,
voire même presque surtout, d'autant plus quand on n'est pas d'accord, la meilleure chose à faire, c'est de débattre avec les meilleurs arguments pour chercher à convaincre, en fait, et non renoncer au débat ou refuser, par principe, d'aller débattre de ces questions-là.
Moi, je suis pas spécialiste du débat public, donc là, je sors un peu encore de mon domaine d'expertise. J'ai plutôt avoir une position personnelle sur le sujet. Il y a une différence entre parler à des responsables politiques, parler à des idéologues d'extrême droite, et essayer de parler à son électorat. Effectivement, si on se considère dans une position militante, le but, c'est de convaincre des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, et donc, il faut essayer aussi de toucher ce public-là, et de ne pas les fossiliser dans des positions racistes parce qu'ils votent au Rassemblement National, même si c'est le cas d'une large partie de cet électorat-là.
Oui, de ne pas essentialiser en retour en disant « c'est des racistes, on ne peut plus les convaincre, ils sont perdus ».
Sinon, en fait, ça ne sert à rien de militer. L'idée, c'est aussi de les faire sortir de ce registre-là. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, ils le sont, ils ne sont pas racistes, mais simplement, on peut aussi essayer d'avancer de ce point de vue-là. La manière de le faire, par contre, là, il y a effectivement plein de questions qui se posent et qu'il faut aller intervenir dans les médias d'extrême droite directement, type Valeurs Actuelles, justement, ou d'autres types de médias. Ou est-ce qu'on se concentre sur des médias uniquement en carré gauche, ou est-ce qu'on intervient dans les médias très grand public, les médias de masse, j'en sais rien, type BFM TV, etc. Moi, ma position, c'est que c'est plutôt du cas par cas à la fois en termes de type de médias. Par exemple, intervenir sur CNews, intervenir sur BFM TV, c'est pas exactement la même chose, au sens où c'est pas exactement la même ligne éditoriale, les mêmes pratiques journalistiques derrière, etc. Donc je pense qu'il y a du cas par cas à faire, à la fois en type de médias, mais au sein même d'un même média. Chaque journaliste a aussi des pratiques différentes et il y a des journalistes avec des ontologies variables au sein d'un même média. Donc moi, je serais plutôt à voir du cas par cas. Alors, c'est évidemment une réponse un peu facile de dire, faut voir. Mais c'est aussi une manière de voir que, en fait, même au sein de ces espaces-là, il y a aussi des rapports à l'information et à la qualité de l'information qui sont aussi différents. Et donc, faut être sensible à ça aussi, je pense.
Donc, quand vous faites au cas par cas, en fait, ça implique une évaluation des risques potentiel à aller dans tel ou tel média. Alors concrètement, du coup, c'est quoi les risques quand on va dans ces médias-là?
On va reprendre l'exemple d'Hugo Clément, à mon avis. Hugo Clément, il est arrivé en disant qu'il veut juste venir parler de chiffres, etc. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il a adapté son discours, en fait, à l'audience qu'il avait, en leur disant, je résume, c'est pas une citation littérale, mais c'est que si vous voulez continuer à être raciste, il faut que le monde continue d'exister, et donc il faut être écolo pour pouvoir continuer d'avoir vos positions. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très dangereux, en fait, parce qu'on se rend compte que finalement, ce que lui présente, lui arriver pour visibiliser l'enjeu écologique de manière globale, etc., en fait, il a complètement recodé son discours dans un vocabulaire quand même très particulier, dans une position très particulière, que lui-même ne défend pas, je tiens à préciser, je pense pas que Hugo Clément est un militant d'extrême droite, mais pour parler à son audience. En fait, je pense qu'il y a toujours ce jeu-là à faire, enfin, qui est fait, en fait, concrètement aussi, parce que quand on intervient dans un média, c'est une discussion, à part des professionnels de la politique, il y en a beaucoup, évidemment, qui débitent leur discours, quel que soit le type de question, mais il y a aussi un tas d'experts qui vont parler d'écologie dans ces espaces-là, qui en fait vont se retrouver aussi aspirés par certains cadrages. Et donc c'est un peu tout le travail qu'il y a à faire, et c'est pour ça que je dis que c'est du cas par cas. C'est aussi savoir comment les journalistes sont capables de présenter le sujet, etc. Et moi-même, en fait, quand j'interviens dans les médias, c'est un peu ce travail-là que je fais, et j'ai...
D'adaptation de votre discours à chacun des médias, ou juste de parfois aussi subir le cadrage des journalistes ouais. qui ont une certaine vision de la question, qui vous posent aussi des questions orientées, presque.
Ouais. C'est très compliqué comme travail, concrètement, à faire quand on reçoit une demande. En plus, quand on reçoit une demande d'un ou une journaliste, on a beau regarder un petit peu ce qui a été fait avant, en fait, on ne peut pas avoir forcément l'assurance de ce qui va en ressortir derrière.
Une des choses qui a été dite dans le risque de la participation d'Hugo Clément, c'est qu'il aurait servi de caution, que ce serait une caution écologiste au reste du discours d'extrême droite, raciste, xénophobe, nationaliste.
Cette idée de caution, elle ressemble un peu à l'idée de greenwashing, à mon avis. C'est cette idée qu'il y aurait un vernis apporté par la participation d'une personne à une entreprise politique plus large. Je ne sais pas exactement ce qu'on peut dire sur cette idée de caution, elle est brandie de manière peut-être un petit peu automatique. Maintenant, je pense que c'est vrai que dans l'espace public, Hugo Clément est quelqu'un d'identifié comme écologiste, et que le fait d'aller discuter avec l'extrême droite et de leur tenir le type de discours que j'évoquais avant, ça peut légitimer l'écofascisme comme un projet écologiste parmi d'autres. Je pense que ça a quand même cet effet-là.
C'est quelque chose qu'il a dit très explicitement, que ce serait quelque chose de positif si l'extrême droite développe des mesures écologistes dans son programme.
Oui, et il est même allé plus loin en disant que si l'ensemble des partis politiques devenaient écologistes, eh ben, c'était une victoire pour l'écologie. À mon sens, c'est plutôt une défaite. Au sens, ça veut dire qu'en fait, la crise écologique est devenue tellement grave qu'on n'a toujours rien fait dessus et qu'en fait, maintenant, c'est devenu, comme je disais, une réalité impossible à ignorer. On serait plutôt sur ce type de position-là.
Et ça voudrait dire qu'en fait, l'option écofasciste et tout ce qu'elle entraîne, comme on l'a vu, serait considérée comme aussi légitime, comme interprétation, comme lecture, analyse des crises, et aussi comme réponse autoritaire et du coup fasciste à cette crise-là. Et ce serait pas quelque chose de forcément positif.
Tout à fait. Et en fait, il n'y a pas lieu de se réjouir à l'écologisation d'une famille politique ou pas, en fait. À mon sens, c'est un processus... Je vais utiliser un mot piégé exprès, un processus naturel en fait vis-à-vis de la crise en cours. Et il n'y a pas forcément lieu de s'en réjouir. Et puis surtout, si on pousse le raisonnement un peu plus loin, moi la question que j'ai envie de poser à Hugo Clément et aux personnes qui le soutiennent, c'est une fois que tous les partis seront écologistes, en fait pour qui est-ce que vous allez voter? Quel projet politique vous allez défendre? Et à mon avis, c'est là qu'il y a quand même quelque chose d'important en fait. C'est, on va se rendre compte que en fait, la conception de l'écologie, elle est toujours connectée à un projet politique particulier. Et finalement, on ne peut pas mettre en équivalence tous les projets écolos ensemble. En fait, ça n'a pas de sens. C'est des projets de société complètement différents qu'il y a derrière.
Si on rentre un peu plus dans le détail sur l'idée de servir de caution, est-ce que vous pensez que l'écologisation, finalement, a fait partie et participe encore aujourd'hui à la stratégie de dédiabolisation du RN, c'est-à-dire d'apparaître comme beaucoup plus acceptable, de un peu diluer ses idées et changer un peu le discours pour le rendre plus tolérable et donc élargir sa base électorale?
C'est une possibilité. Maintenant, je pense que c'est moins. J'ai l'impression que c'est moins le cas pour l'écologie que pour l'homonationalisme ou pour le fémonationalisme, par exemple. Les arguments sont moins mobilisés dans ce sens pour le moment. En tout cas, c'est mon impression. Aussi parce que c'est quand même un peu nouveau l'écologie à l'extrême droite, dans l'extrême droite électorale. Pour l'instant, on est sur des mobilisations d'argumentaires quand même très très réduits. Il faut voir aussi ce que ça peut donner, mais je pense que c'est un risque à garder en tête, en fait, quand je parle de vigilance collective vis-à-vis de l'écologisation du fascisme et de la manière dont l'extrême droite électorale aussi se saisit de la question écologique, c'est le type de changement auquel il faut s'attendre.
Et de risque à prendre en compte.
Voilà. Tout à fait.
Sur cette question de la dédiabolisation du RN et plus largement de l'extrême droite, je vous laisse en description une série de podcasts qui est l'enregistrement d'une série de tables rondes organisées par Acrimed, Observatoire critique des médias, qui a beaucoup fait pour mettre en garde sur le rôle des médias dans cette dédiabolisation. Et je vous mets aussi un article d'Acrimed qui est plus court et qui résume un peu ses idées.
Peut-être une des critiques aussi qui a été entendue, c'est qu'il y a un effet de cadrage au fait de participer à un débat. C'est-à-dire le simple fait d'aller à un débat semble laisser entendre et peut avoir comme conséquence d'envoyer le message que du coup ce débat peut avoir lieu et que c'est presque une question ouverte, que les deux positions au moins se valent pour qu'elles puissent discuter. Ce qui est quelque chose que beaucoup de personnes appellent à ne pas faire avec les idées d'extrême droite, parce que c'est des idées oppressives, non acceptables, et donc il ne faut pas aller débattre en laissant entendre qu'on peut encore avoir ces débats-là aujourd'hui.
Oui, tout à fait, c'est ma pratique personnelle, donc moi je suis sur cette ligne-là. Après, je comprends aussi l'argument de dire qu'il faut aussi avoir accès aux personnes au-delà des idéologues, parce qu'en fait quand on parle de débat, on parle toujours de débat entre figures. On parle jamais aussi de comment on touche cet autre public-là. Maintenant, je pense qu'on imagine trop que le champ médiatique fonctionne vraiment en silo et qu'en fait, les gens qui lisent Valeurs Actuelles ne lisent que Valeurs Actuelles. Bon, évidemment, les gens qui lisent Valeurs Actuelles ne vont pas aller lire Mediapart, par exemple. Mm-hmm. Je pense qu'effectivement, il y a une stratification dans le champ médiatique, mais ils vont aller lire, par exemple, je sais pas, Le Figaro. Et je pense qu'on a déjà des pratiques journalistiques qui sont très différentes entre ces deux médias. Donc là, on revient au cas par cas que je disais. Donc ça peut être intéressant d'intervenir dans Le Figaro et pas dans Valeurs Actuelles. Par exemple, moi, c'est le type de question que je me poserais.
On n'a pas besoin d'aller à Valeurs Actuelles pour parler à l'électorat du Rassemblement National, c'est ce que vous dites.
C'est ça, voilà. Je pense qu'il y a plein d'autres espaces. Et là, encore, on parle que d'espaces médiatiques. Il y a évidemment plein d'autres espaces sociaux pour militer, autres que l'espace médiatique. Nous, tout ne passe pas par l'espace médiatique.
Et une autre question qui peut se poser, c'est est-ce que ça a encore du sens à l'heure d'aujourd'hui, dans le contexte actuel, d'appliquer une stratégie qu'on dit du cordon sanitaire, c'est-à-dire de faire vouloir faire barrage aux idées de l'extrême droite et donc de ne pas aller dans les médias d'extrême droite et notamment Valeurs Actuelles, quand la dédiabolisation est pratiquement achevée. En fait, c'est le fruit des dernières décennies de travail du Rassemblement National pour légitimer ses idées dans l'espace public. Et maintenant, c'est une force politique avec laquelle qu'on ne peut pas éviter en France en 2023, avec un poids électoral et médiatique assez important.
Moi, je pense qu'elle est quand même importante, cette idée de cordon sanitaire, au sens où, en fait, la rappeler, c'est quand même remettre dans le débat, justement, le fait qu'il y a toute cette histoire du parti derrière. Même si la stratégie de dédiabolisation est en grande partie réussie, hein, objectivement, on peut le dire, rappeler cette histoire, ça reste quelque chose d'important.
Ouais. Autre question, je cherche vraiment à vous pousser sur ça, mais pour essayer d'avoir le débat avec le plus d'arguments vraiment fondés et analysés en détail. Finalement, la stratégie de passer dans tous les médias, ça a été la stratégie d'élargissement de la nouvelle droite, de construire une hégémonie en fait dans le champ des idées et des valeurs, et d'accepter toutes les invitations, d'essayer d'occuper le plus d'espace médiatique possible. Et finalement, est-ce que c'est pas ce que fait Hugo Clément? Et est-ce qu'il a pas raison de le faire? Est-ce que finalement, quand on a des valeurs et des idées de gauche, on n'a pas tendance à vouloir être dans la pureté idéologique, dans la défense des bonnes valeurs, dans la clarification du discours? Et est-ce qu'on perd pas un peu de vue la question de l'efficacité stratégique, de en fait comment on va aller convaincre d'autres personnes, comment on va faire exister des questions, et est-ce que ça passe pas par le fait de passer dans des médias avec, dont on exècre les idées finalement?
Ce qui est très intéressant avec la nouvelle droite, c'est que justement a été construit tout ce discours sur l'identité et qui s'est diffusé dans l'espace médiatique, et en fait finalement qui se répercute aussi dans les programmes des partis politiques, etc. Mais dans l'électorat d'extrême droite, à mon sens, c'est beaucoup plus compliqué. L'adhésion au vote d'extrême droite n'est pas forcément sur une adhésion identitaire aussi claire. C'est quelque chose de plus diffus, en fait, l'adhésion à ce type de programme. C'est évidemment un élément important, hein, l'élément identitaire, mais il peut y avoir aussi d'autres enjeux, par exemple le rejet du macronisme, des choses comme ça, qui peuvent aussi intervenir. Et donc je pense qu'il y a effectivement, d'une part, un aspect de guerre culturelle à mener, mais qui est dans les médias, pas forcément partout, mais certes, il n'y a pas se restreindre aux médias uniquement progressistes, etc., mais aussi aller intervenir dans d'autres types de médias, comme je l'évoquais. Mais aussi faire un travail collectif militant au-delà des médias, en fait. Je pense que c'est aussi ça qui est important, c'est l'engagement collectif. En fait, c'est comme ça aussi qu'on transforme les positions dans la société. C'est pas uniquement via les médias. En fait, je pense qu'on surestime aussi beaucoup l'influence des médias, qui certes sont omniprésents et qui façonnent une bonne partie de notre compréhension du monde, etc. Mais je pense qu'il n'existe pas uniquement les médias. Et cette idée d'engagement collectif, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. On le voit au sein de mouvements écologistes qui avaient des fois des positions, je prends l'exemple des grèves pour le climat, des positions de type écouter les scientifiques, et qui petit à petit sont transformées et ont un discours beaucoup plus offensif d'un point de vue politique, et beaucoup plus politisé en fait, tout simplement. Et je pense que c'est un bon moyen de sortir aussi d'un certain nombre de cadrages médiatiques, c'est aussi de discuter. Et les cadrages médiatiques, ils fonctionnent aussi quand on est à une échelle très individuelle, qu'on n'a pas d'espace aussi pour discuter, pour confronter ses idées dans son cercle proche.
Donc vous dites les espaces qu'on peut créer et occuper pour faire exister ses idées, c'est pas forcément les médias, mais c'est aussi ce qu'on pourrait appeler le terrain, c'est-à-dire aller dans les villes, organiser des événements, rencontrer les gens, créer des collectifs.
Oui, tout à fait. Et en évitant de se recentrer sur les espaces militants en eux-mêmes. En fait, ça, c'est un gros problème des espaces militants, c'est qu'ils sont souvent assez fermés pour plein de raisons, des raisons un peu folkloriques qui font que c'est des espaces difficiles d'accès pour des personnes extérieures. C'est là qu'on a, vraiment un gros problème. Alors moi, je parle surtout des espaces écologistes et d'extrême-gauche, mais j'imagine que c'est quelque chose qui est un peu plus large aussi.
Alors pour reboucler et en venir à la conclusion et à la fin de cet entretien, une chose que vous dites dans votre ouvrage, c'est que finalement on se protège d'autant mieux et d'autant plus fortement contre le risque d'écofascisme en justement proposant de façon claire un projet écologique émancipateur, et ça passe, vous le dites, par une étape de clarification idéologique. C'est quoi cet appel que vous faites à la clarification?
C'est pas un appel que je fais tout seul, je dirais déjà. C'est plutôt un appel à se fondre dans une dynamique collective qui existe déjà, c'est une dynamique de clarification du discours écologique, qui existe sur certaines questions qu'on a brièvement évoquées, par exemple la question de la décroissance. La décroissance, c'est un projet écologiste historique, qui a initialement une dimension fortement émancipatrice, socialiste, autogestionnaire, et qui s'est ensuite un petit peu dilué, et des arguments au-delà du champ économique qui sont apparus. sur cette question de la décroissance, il y a donc eu des clarifications idéologiques sur les appropriations réactionnaires de ce concept par des collectifs militants. Je pense notamment à un texte qui est paru sur le média Rébellion, qui s'appelle « La décroissance, ce journal que nous n'achèterons plus », ce qui est un journal qui s'appelle « La décroissance ». Et donc ça, je pense que c'est un type de travail collectif qui est vraiment intéressant et qui a pu être fait donc, sur cette question-là. Exemple beaucoup plus contemporain, qui est actuel, qui est celui de la pandémie. Je pense que la pandémie a été un moment de fascisation de l'écologie important, avec la mise en avant de l'idée de santé naturelle, et donc pour justifier le rejet du vaccin notamment. Et il y a notamment un collectif qui s'appelle le collectif Cabriole, qui a fait un certain nombre de travaux vraiment très intéressants sur la naturalisation de la pandémie, le rejet de la médecine, etc. Et la manière dont tout ça s'est diffusé aussi au sein des espaces écologistes. C'est ce type de démarche-là, à mon avis, qu'il faut accompagner. Donc dans le livre, effectivement, je liste différentes pistes pour clarifier le discours écologique. Mais c'est des pistes qui sont, à mon avis, déjà travaillées au sein des espaces écologistes.
D'accord. Donc puisque ce travail de clarification est déjà mené et en cours, est-ce que vous seriez d'accord de dire que c'est d'autant plus l'occasion, à mesure qu'on clarifie certaines lignes discours écologistes et qu'on dit certains projets écologistes ne sont pas les nôtres pour telle et telle raison et ne doivent pas l'être, qu'on choisit en fait au sein des différentes écologies celles qui sont les plus émancipatrices et qui se prêtent le plus en fait à vraiment répondre aux crises en question. Est-ce que vous êtes d'accord que dans ce travail de clarification, il faut intégrer la question du spécisme alors qu'elle ne l'a pour l'instant pas été au sein de l'écologie politique ?
Oui, je suis tout à fait d'accord, et pour les raisons qu'on a évoquées, en fait, et qu'il y a une analogie en fait, entre certains discours écologistes de gauche qui légitiment le spécisme, et en fait l'écofascisme qu'on rejette, que finalement il y a une parenté entre ces deux types de discours en termes de mobilisation de l'idée de nature, notamment, comme on l'a évoqué, etc., et que le spécisme, en fait, formulé en termes d'exploitation, on voit à quel point il s'intègre en fait, très bien dans le discours historique de ces mouvances politiques-là.
Et à l'inverse, je trouve ça très intéressant, c'est que en regardant dans le paysage de ce qui nous est proposé dans la façon de penser l'écologie politique, je constate, et vous me direz si vous êtes d'accord, que c'est les écologies qui pensent de la façon la plus fine que l'écologie c'est aussi une question de lutte sociale et d'oppression et qu'on ne peut pas penser l'écologie sans penser les questions de racisme environnemental, de colonisation, donc les écologies décoloniales notamment, c'est celles qui se prêtent le plus en fait à intégrer et penser aussi la question du spécisme.
Oui, tout à fait. Pas grand chose à ajouter, je suis tout à fait d'accord avec ce constat-là.
Super, et bien j'espère que la convergence ou l'intégration du spécisme pourra se faire avec ces acteurs et actrices là. Antoine Dubieux, je demande toujours à mes invités de nous donner trois recommandations. Alors, quelles sont les vôtres ?
La première recommandation, c'est le podcast Minuit dans le siècle, qui est animé par le sociologue Hugo Paletta, que j'ai cité au tout début du podcast pour définir le fascisme. Et donc c'est un podcast qui est très intéressant parce qu'il revient sur l'histoire et l'actualité du fascisme avec des spécialistes, principalement universitaires mais pas que. Et donc il y a plein d'épisodes très intéressants, notamment sur les mouvements de femmes d'extrême droite. Est-ce qu'on peut les nommer féministes ou pas ? Je vous laisse aller écouter l'épisode pour savoir ça. Et puis, il y a aussi deux épisodes sur l'écofascisme que je trouve vraiment très intéressants, qui ont été faits par Paul Guilibert, qui est un philosophe marxiste écologiste français. Et puis aussi, un autre podcast sur l'écofascisme avec Pierre Madelin, qui est donc un auteur écologiste, qui vient justement de publier un livre sur l'écofascisme il y a quelques semaines.
La tentation écofasciste.
La tentation écofasciste, c'est ça. Et qui est... par rapport à mon livre à moi, qui est un ouvrage beaucoup plus généalogique, beaucoup plus précis sur les sources idéologiques de l'écologie d'extrême droite. La deuxième recommandation, c'est la chaîne YouTube Game of Earth, qui est une chaîne initialement plutôt centrée sur les questions de théorie politique et d'histoire des idées, sur les mouvements écologistes, les théories écologistes, et les mouvements féministes également, avec un peu un climax, hein, on pourrait voir dans l'écoféminisme évidemment, et tout ça est traité avec beaucoup de profondeur conceptuelle, c'est vraiment une chaîne très riche en termes de théorie sur ces mouvements-là, que je vous conseille fortement. La troisième recommandation, ce sont les travaux de Murray Bookchin, qui est un auteur écologiste nord-américain très important, qui est le principal théoricien de l'écologie sociale, qui est l'approche de l'écologie qui me semble la plus pertinente, et en fait qui connecte la domination sur la nature aux dominations intra-humaines, et en fait qui considère que ce sont les dominations au sein de la société humaine qui légitiment les dominations à l'extérieur de l'humanité. Et je pense que c'est un cadrage théorique d'ailleurs qui peut bien s'exporter aussi aux approches antispécistes. Enfin, en tout cas, moi je vois la compatibilité, enfin à exporter, ça fait un peu impérialiste comme approche, mais je pense que s'il y a une bonne compatibilité avec ce type d'approche-là, En tout cas, la manière dont le formule Murray Bookchin me semble fructueuse.
D'accord, super. Eh ben, merci beaucoup Antoine Duvio pour ces références que je mettrai en description avec toutes les références qui ont été nombreuses qu'on a citées pendant cet entretien. Et merci beaucoup d'être venu dans Comme un poisson dans l'eau.
Voilà, c'est la fin de cet épisode, et c'est aussi la fin de cet entretien en trois parties d'Antoine Duvio. J'espère que ça vous aura apporté des clés de réflexion et de compréhension, et d'ailleurs je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Alors faites-le moi savoir sur les réseaux. Et surtout, si cet épisode ou le podcast en général vous plaît, s'il vous plaît, partagez-le, laissez des étoiles sur les applis de podcast, parlez-en autour de vous, c'est ça qui le fait grandir. Et si vous pouvez, abonnez-vous sur les plateformes de soutien. Comme un poisson dans l'eau est un podcast indépendant, qui a besoin de votre soutien pour continuer. Allez, bisous.